France Musique. Vous écoutez France Musique, soyez les bienvenus. Nous sommes le 12 juin avec un petit changement aujourd'hui dans Musique Matin. Gabriel Oliver Aguillon prend la relève et c'est tout de suite jusqu'à 9h.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Musique. Merci d'avoir choisi France Musique. Ravi de vous accompagner ce matin jusqu'à 9h. Nous aimons les bonnes nouvelles sur France Musique. Ce matin, notre invité à partir de 8h45 sera Patrick Canac, président fondateur du festival Les Musicales du Luberon, festival maintenu qui débute cet été le 16 juillet. En poste depuis 2014 à l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, le directeur général de la grande maison d'art lyrique, met fin à ses fonctions avant le terme de son mandat. C'est l'info du jour, nous y reviendrons plus longuement avec Sophia Anastasio dans Classique Info. Un extrait du disque lyrique le plus attendu de l'année, Othello de Verdi par Jonas Kaufmann. C'est en exclusivité sur France Musique dans quelques minutes. La création de l'Union française des facteurs d'instruments à percussion. Pourquoi un tel rassemblement? Et qu'ont-ils à dire? Un sujet traité par Suzanne Gervais dans sa chronique « La musique connectée ». Et dans 10 minutes, Guillaume Thion nous parlera d'une production de l'Opéra de Paris qui a fait scandale. « La Bohème », mise en scène par Klaus Guth en 2017, avec Nicole Carr et Benjamin Bernheim notamment. Et enfin, un titre développé par Olivier Denré dans son journal à 8h30, les autorités de Singapour vont mettre en place une sorte de bracelet électronique pour pister les personnes infectées par le coronavirus, un dispositif qui pourrait être distribué à toute la population.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Commençons la matinée de ce vendredi 12 juin avec Jean-Sébastien Bach. Bon réveil avec France Musique.
Thank you.
Le presto, le mouvement final du concerto numéro 5 en fa mineur, BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach, interprété par la Philharmonie de chambre allemande de Brême, dirigé du piano par David Frey. David Frey, invité du Festival de la Roque d'Anteron le 12 août, un festival maintenu donc, René Martin l'a annoncé officiellement ici même il y a 10 jours. La 40e édition de ce Festival international de piano aura lieu du 1er au 21 août avec des concerts en plein air, des capacités d'accueil du public revues. Rendez-vous donc cet été pour 60 concerts dont certains seront évidemment diffusés par France Musique qui y installera ses micros. Tout à l'heure, à 18h, comme tous les vendredis du mois de juin, une nouvelle vidéo de la maîtrise de Radio France que les enfants ont enregistrée chacun chez eux, chorégraphiée par Martin Grandperret, un travail réalisé à distance, à découvrir sur le site francemusique.fr et la chaîne YouTube de France Musique. La prochaine, c'est donc ce soir à 18h, Les Marins, musique et texte de Vincent Manac. Écoutons la première mise en ligne la semaine dernière, Trois choses, une composition de Pauline Marchand sur un texte de Fernando Sabino avec Bruno Perbost au piano. C'est splendide. Réveil tout en douceur à 8h08, Trois choses de Pauline Marchand, interprétée par la maîtrise de Radio France et Bruno Perbost au piano, son et vidéo à retrouver sur francemusique.fr. Eh bien c'est l'heure de la chronique de Guillaume Thion sur France Musique comme chaque vendredi. Bonjour Guillaume, alors quel opéra en streaming allez-vous nous conseiller cette semaine ?
Bonjour Gabriel, aujourd'hui nous allons parler d'une production de l'Opéra de Paris qui a fait scandale, La Bohème de Klaus Gut. Alors, rappelez-vous, nous sommes en décembre 2017 et pour le moment, du côté des productions Lissner qui est arrivé il y a 2 ans, ça va plutôt bien, n'était une exubérante damnation de Faust avec des gros plans d'escargots. Bon. Atterri alors sur la scène de Bastille, une mise en scène spatiale de Klaus Gut. Gut, on le connaît un peu puisqu'il a signé un Rigoletto la saison précédente et son Lohengrin monté à la Scala et passé ensuite à Paris a marqué la résurrection de Jonas Kaufmann après son extinction de voix. on peut assimiler le style de Gout à un reggae théâtre pas spécialement engagé avec une monomanie des sosies. Mais pour cette bohème, l'Allemand a basculé derrière l'horizon. Il a carrément propulsé Puccini sur une lune à l'autre bout de la Voie lactée. Un choix de mise en scène radical. Comment faire entrer le Paris du 19e siècle dans une station orbitale avec scaphandre et apesanteur? Par des flashbacks, bien sûr, et le fil de l'histoire comme sorti de la tête d'un astronaute qui se souvient de sa passion avec Mimi, sa chérie morte sur Terre, qu'il revoit dans la poussière des étoiles. Rappelons qu'à peu près au même moment, on donne toujours au Metropolitan Opera de New York une bohème avec sur scène plus d'une centaine de figurants, les grands boulevards parisiens sur deux niveaux, des jongleurs, des chiens, un cheval, un âne, bref, un succès carton-pâte de Franco Zeffirelli datant de 1981 aux 1200 représentations rangées dans de la naphtaline. Retour maintenant dans la fusée de Bastille. On se dit que si la mise en scène de Klaus Gut exagère, choque ou irrite, le spectacle se rattrapera par la qualité de sa direction. C'est Gustavo Dudamel qui tient la baguette, et de sa distribution, notamment grâce à la soprano bulgare Sonia Yoncheva. C'est sans compter les maladies, appelons ça comme on veut, mais disons maladies, Gabriel. Yoncheva, la star, assure la première du spectacle le 1er décembre et annule toutes les autres représentations. Elle est remplacée par Nicole Carr. Par le plus grand des hasards, j'ai retrouvé le son des applaudissements de cette soirée-là, 1er décembre 2017. Voici comment la salle avait accueilli cette production. Ici, les saluts pour les chanteurs. Et voici pour Klaus Gut qui entre sur la scène. Voilà, quelle violence, quel tempérament. Pour l'anecdote, deux mois plus tard, Yoncheva chantait la bohème à New York avec les chiens, le cheval et l'âne, applaudis à tout coup cette fois-là. On ne saurait donc trop recommander aujourd'hui aux mélomanes d'aller visionner sur le site de l'Opéra de Paris cette bohème qui avait une grande ambition immédiatement douchée.
Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique en partenariat avec le quotidien Libération. Et je vous rappelle que vous pouvez visionner cette bohème jusqu'à ce dimanche 14 juin sur le site de l'Opéra de Paris. À la semaine prochaine Guillaume. It is perhaps that sensible that what was all in to heaven or hell,
advantage wise you may.
8h15 sur France Musique et à l'instant Now What Is Love de Robert Jones, chanson anglaise de 1601, interprétée par l'ensemble Près de votre oreille, dirigée depuis sa viole de gambe par Robin Farreau, un ensemble en concert en l'abbatiale de Saintes le 24 juillet dans le cadre du Festival de Saintes, festival qui se tiendra du 18 au 25 juillet prochain. Il tient bon lui aussi et propose une série de 9 concerts intitulés Le Labo. Tous les concerts sont enregistrés dans l'abbatiale en son binaural et filmé, retransmis le jour même ou le lendemain à 22h sur grand écran avec un casque sur les oreilles et dans un transat. Comme chaque matin, une voix de France Musique. Il vous réveille avec sa voix unique, son talent et sa gentillesse. Il n'est pas las aujourd'hui, mais il revient très vite, lundi, au micro de Musique Matin. C'est la voix du jour. J'ai proposé à Jean-Baptiste Urbain de nous confier ce qu'il aime, écouter ce qu'il veut partager avec nous pour finir la semaine. France Musique.
Vous allez l'adorer.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Et oui, même quand je suis pas là, je suis là, mais c'est vous qui me l'avez demandé, Gabriel, je précise. Alors, eux sont là, tout le temps, sur France Musique, avec les disques que l'on passe, les concerts que l'on enregistre, les entretiens aussi que l'on mène, leurs mots, eux, ce sont les artistes, les musiciens, connus ou pas connus, jeunes ou moins jeunes. Sur France Musique, il y a vous qui nous faites le plaisir de nous écouter, mais il y a eux aussi dont notre chaîne est le porte-voix, la caisse de résonance. Alors depuis 3 mois, ces artistes, ces musiciens que l'on reçoit tous les jours ici dans Musique Matin, ils nous font part de leurs inquiétudes, de leurs doutes, de leurs peurs, de tous ces concerts annulés. Bien sûr, il y a les pertes économiques, matérielles, mais surtout jouer la scène, c'est leur vie, c'est la vie qu'ils ont choisie. Ils vont jouer cet été sur France Musique, ces musiciens, notamment dans un festival de radio. Il a été annoncé hier et c'est notre rôle de service public de leur donner cette occasion d'enregistrer. Mais c'est aussi notre rôle de les faire parler. Si je dis tout ça, c'est parce que ces dernières semaines, on a reçu quelques messages de certains disant « il y en a marre des musiciens qui se plaignent et qui réclament de l'argent ». Bah non, France Musique est là aussi pour les soutenir, pour les défendre. Voilà, mais on ne va pas sortir les violons. Non, mieux vaut une bonne chanson d'Anne Sylvestre, par exemple.
Mais qu'est-ce qui nous fabriquent avec leurs acédiques? Il paraît qu'ils sont pas contents, mais qu'est-ce qui leur prend? Je les rencontre rue Bergère. Y'en a qui exagèrent. Sur le trottoir, j'en vois qui pleurent. J'ai pas mes heures. Ils bossent 1 heure, ça en fait 12. Qui s'étonne pas qu'on les jalouse? Qu'ils soient chômeurs, moi ça me résiste. Ils sont artistes. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants. Un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire le con, ça soit un métier pour de bon. Qu'est-ce qui nous trafique avec leurs acédiques? Paraît même qu'il y en a qui trichent en remplissant leurs fiches. Tous ceux qui passent à la téloche, ils s'en foutent plein les poches. Sans doute que ceux qu'on voit jamais, ils sont mauvais. Et toujours, toujours, ils se plaignent. Moi, je trouve ça mériterait des beignes. Ils ont qu'à se lever le matin comme les copains. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant, un côté minable. J'aurais pas cru que de faire la fête, ça vous donnait des points de retraite. Voilà types qui se syndiquent, vu que leurs acédiques, ils y comprennent pas grand chose. Ils en tiennent une dose. Ils font la queue pendant des plombes. Des fois, y en a qui tombent. Ils ont jamais le papier qu'on veut. Ils refont la queue. Je te le dis, moi, faudrait qu'on me paye pour aller mendier mon oseille. Même que souvent, ils la reçoivent pas avant des mois. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout le temps comme des clignotants, un côté brillant. riant, un coût est minable. Faut croire que les coups de pied au cul, c'est remboursé par la sécu. Mais qu'est-ce qui nous panique avec leurs acédiques? V'là qui se mettent à faire la grève. Non, alors là, je rêve. Suppose que tous ils abandonnent. Ça dérangerait personne. Y aurait que des jeux à la télé. Ça serait le pied. Remarque, ils se laissent pas abattre. Ils s'en vont jouer dans des théâtres. Je vois vraiment pas qui c'est qui ira payer pour ça. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable. Je parie que tordus comme ils sont, ils vont même en faire des chansons. C'est eux les intermittents, les intermutants, les interminables. Tout en comme des clignotants, un coup t'es brillant, un coup t'es minable.
Anne Sylvestre et ses musiciens sur France Musique avec la Java des Acédiques, le choix de Jean-Baptiste Urbain, l'homme de la matinale que vous entendez du lundi au vendredi. Et à ce propos, je vous invite à réécouter les grands entretiens de Jean-Baptiste Urbain avec Anne Sylvestre en 2018, toujours disponible sur francemusique.fr. 8h22, bon réveil et bon début de journée à notre écoute. Quoi de mieux que Beethoven pour prendre son café un vendredi matin. troisième mouvement Allegro du Quatuor à cordes numéro 3 en ré majeur opus 18 numéro 3 de Ludwig van Beethoven interprété par le Quatuor Eben. Quatuor Eben qui vient de terminer son tour du monde en enregistrant l'intégrale des quatuors de Beethoven. Jean-Baptiste Urbain les recevait ici mardi dernier pour une journée Quatuor Eben sur France Musique et à réécouter également sur notre site le très beau reportage de 22 minutes de Sophia Anastasio qui a suivi les quatre musiciens à Nairobi au Kenya en décembre dernier. 8h25 sur France Musique, c'est l'heure de rejoindre tout de suite Suzanne Gervais pour la musique connectée. Bonjour Suzanne.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
De la percussion pour finir la semaine et une chronique rythmée, vous nous parlez ce matin d'une initiative inédite, la création de l'Union française des facteurs de percussion.
Et oui Gabriel, je trouve qu'on ne parle pas assez déjà de la grande famille des percussionnistes, on ne parle pas assez des interprètes, mais aussi de ceux qui les fabriquent, les percussions. Quand on pense aux facteurs d'instruments, on pense aux facteurs de piano bien sûr, aux facteurs d'instruments à vent, mais on entend moins souvent parler des facteurs de percussion qui sont pourtant des dizaines en France. Il y a les entreprises bien installées qui ont pignon sur rue auprès des percussionnistes, comme les percussions Bergerot en Indre-et-Loire, ou les batteries Asba qui existent depuis 1927, mais aussi plein de jeunes pousses de start-up qui se lancent sur ce marché de niche, les percussions brésiliennes de Tabala Percussion, les percussions en acier de Maipan en Charente-Maritime, le baguettier Restagé, et ce ne sont que quelques exemples. Et puisque l'Union fait la force, comme on dit, ces petites et moyennes entreprises qui revendiquent tout le Made in France se sont rassemblées au début du mois en une union qui se fait désormais un plaisir d'accueillir dans ses rangs tout facteur ou toute factrice française d'instruments à percussion. Il ne fait pas de doute que la création de cette Union nationale des facteurs de percussion a été impulsée par la crise Covid-19 et puis plus largement par l'envie de mettre en valeur le travail des fabricants, qu'ils soient artisans ou ingénieurs, entreprises familiales centenaires ou jeunes entrepreneurs pleins de nouvelles idées. L'idée, c'est qu'en étant plus visible, l'Union des facteurs de percussion défende son savoir-faire en même temps qu'elle encourage l'innovation et la découverte de nouveaux matériaux. Ce n'est pas incompatible, par exemple en s'associant à des laboratoires de recherche. Dans un entretien accordé à la Lettre du Musicien pas plus tard que lundi, l'un des membres fondateurs de l'Union, Frédéric Bousquet, explique que la première étape, c'est d'abord de créer tout simplement un annuaire des facteurs d'instruments à percussion et d'associer les conservatoires au projet des fabricants. Longue vie donc à cette Union française des facteurs de percussion et à cet artisanat qui mérite d'être mieux connu. Sachez que les percussions sont parmi les instruments les plus achetés sur les sites mastodontes comme Amazon ou son alter ego chinois Alibaba. Va des rétro. Il est plus que jamais temps de se tourner vers des alternatives locales.
Merci beaucoup Suzanne et bon week-end.
Bon week-end Gabriel.
Et évidemment, nous nous séparons Suzanne en écoutant un peu de percussion, marimba et piano Brasileira, troisième mouvement de Scaramouche de Darius Milhaud par Adélaïde Ferrière. En 1937, c'était à l'instant un arrangement pour marimba et piano, deux instruments joués par Adélaïde Ferrière, Brasileira, extrait de Scaramouche de Milhaud.
Musique Matin, Gabriel Oliveira Guyon.
Notre invité ce matin dans un quart d'heure, le président fondateur du festival Les Musicales du Luberon, Patrick Canac, heureux de partager avec nous la bonne nouvelle, le festival est maintenu, concert du 16 juillet au 4 août. À 8h45, la nouveauté de disque du jour, le tant attendu Othello de Verdi par Jonas Kaufmann, un extrait en exclusivité pour vous dans quelques minutes, le temps de prendre votre douche. Mais là tout de suite, sur France Musique, il est 8h30, c'est l'heure du journal. Journal présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Le protocole sanitaire élaboré pour les écoles sera-t-il finalement allégé? La question est en tout cas à l'ordre du jour du Conseil de défense présidé ce matin par le chef de l'État qui aura vu juste avant les membres du Conseil scientifique. Au ministère de l'Éducation nationale, on souhaite un assouplissement des procédures, l'objectif étant d'accueillir davantage d'élèves avant la fin de cette année. Pour l'instant, moins de 2 millions d'écoliers ont retrouvé en pointillés leur salle de classe. Pour espérer changer la donne, il va donc falloir revoir certaines règles, à commencer justement, Alexis Morel, par la taille des effectifs.
La plus grosse contrainte aujourd'hui, c'est bien sûr cette jauge maximale de 15 enfants par classe. Pour satisfaire davantage de familles, il faudrait donc l'augmenter, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet si ça ne s'accompagne pas d'une réduction de la distanciation physique. Concrètement, si le principe de 4 mètres carrés pour chaque enfant ne disparaît pas, les directeurs d'école affirment qu'ils ne pourront pas de toute façon accueillir beaucoup plus que 15 élèves, vu la taille de leur salle de classe. Alors faut-il aller jusqu'à renoncer à la distanciation entre élèves? C'est ce que vient d'oser la Belgique pour tous les enfants de moins de 12 ans. L'autre levier possible concerne le nettoyage. Le protocole actuel préconise plusieurs désinfections par jour pour les surfaces les plus touchées, poignées de porte, jouets, etc. Tout cela mobilise énormément le personnel communal et par endroits, cela empêche l'ouverture de nouvelles salles de classe. Réduire cette fréquence de nettoyage peut donc aussi être une solution.
La question du chômage partiel sera également évoquée aujourd'hui à l'occasion de rencontres bilatérales entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. L'exécutif veut en effet réduire la voilure et demander aux entreprises de supporter un reste à charge plus important. Dans le dernier budget rectificatif adopté mercredi en Conseil des ministres, l'enveloppe consacrée au chômage partiel dépasse les 30 milliards d'euros. Cette protection de l'État n'a toutefois pas permis d'éviter la destruction de 500 000 emplois en France ces trois derniers mois. Des suppressions de postes massives chez Lufthansa, la compagnie aérienne annonce tirer un trait sur 22 000 emplois, dont la moitié en Allemagne. Le groupe espère éviter les licenciements secs via des mesures de chômage partiel ou avec des accords avec les syndicats. Des paires de menottes jetées sur le sol, les policiers s'estiment désavoués par leur ministre qui en début de semaine a promis une tolérance zéro face au racisme et aux violences. Dans plusieurs villes de France, des centaines de fonctionnaires de police ont ainsi manifesté leur colère et leur écœurement. Christophe Castaner doit poursuivre aujourd'hui ses discussions avec des syndicats des forces de l'ordre. Il verra cet après-midi les représentants des officiers et des commissaires. Gérald Darmanin avait bénéficié d'un non-lieu en 2018, mais la Cour d'appel de Paris vient d'ordonner la reprise des investigations contre l'actuel ministre des Comptes publics. L'affaire concerne des accusations de viol. La Cour considère que la juge d'instruction qui a travaillé sur ce dossier n'a procédé à aucune audition ni aucune confrontation. La pandémie continue de progresser en Amérique latine. On enregistre désormais plus d'1 500 000 malades du Covid-19 et on redoute que cette crise sanitaire se double bientôt d'une crise alimentaire. Relativement épargné jusqu'ici, le continent africain connaît depuis quelques jours une accélération des cas de contagion d'après les derniers chiffres publiés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, la Corée du Sud se dit prête à réintroduire des mesures plus strictes de distanciation sociale. Des dizaines de personnes sont affectées chaque jour. De nouveaux foyers sont en effet apparus à Séoul et dans les environs de la capitale. Pendant ce temps, à Singapour, les autorités misent, elles, à fond sur les nouvelles technologies. Après avoir été l'un des premiers pays à mettre en place une application de traçage pour identifier les malades du coronavirus, Singapour annonce le lancement d'un nouveau dispositif à porter sur soi et qui ressemble beaucoup à un bracelet électronique. Gabrielle Maréchaux est notre correspondante en Asie du Sud-Est.
Il y a eu le chien robot qui contrôle la distanciation sociale, l'application de traçage téléchargeable depuis mars, mais aujourd'hui, Singapour veut aller encore plus loin, assure ce ministre.
Tout le monde n'a pas un smartphone ou un smartphone suffisamment efficace pour fournir toutes les données dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'étendre le programme de traçage collectif en lançant un dispositif que nous appellerons le jeton collectif de traçage.
Rapidement comparé à un bracelet électronique, ce jeton à porter sur soi a d'emblée suscité la méfiance de certains Singapouriens comme Wilson Low.
Je trouve que c'est préoccupant à deux niveaux. D'abord, il y a la question de savoir si ce sera obligatoire pour tout le monde de le porter. Et là, on parle du coup des citoyens singapouriens qui n'ont pas voté de loi l'autorisant. Et si ça n'est pas obligatoire pour tout le monde, on se retrouvera dans une société à plusieurs niveaux, avec d'un côté des gens autorisés à entrer à certains endroits, dans certains bâtiments, et d'autres qui n'auront plus le droit.
À l'origine d'une pétition signée par plus de 40 000 personnes, Wilson Low espère qu'à quelques mois des élections, la gestion du coronavirus développe l'esprit critique des Singapouriens qui n'ont connu qu'un seul parti au pouvoir depuis l'indépendance.
Beaucoup de pluie sur la majeure partie du pays. 8 départements sont d'ailleurs en vigilance orange. Le temps sera plus clément sur l'Alsace et puis il y aura quelques éclaircies en montagne. Les températures de 8 à 17 degrés ce matin et de 18 à 29 degrés cet après-midi. Gabriel Olivier Aiguillon.
Merci Olivier Denré, bonne journée.
Bonne journée à vous, bon week-end.
Merci. Victor Julien Laferrière au violoncelle et Jonas Vito au piano dans l'Allegro, ce quatrième mouvement de la sonate pour piano et violoncelle en ré mineur, opus 40 de Shostakovich. Victor Julien Laferrière et Jonas Vito seront tous les deux en concert dans le cadre du festival Lille Piano Digital demain et dimanche pour donner les 5 sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Lille Piano Digital, c'est un festival sans public, mais partout sur les réseaux et YouTube. Festival qui commence aujourd'hui et dure 3 jours, 30 artistes, 19 concerts, électro, jazz et classique, depuis l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille, mais aussi depuis Brooklyn, Philadelphie, Amsterdam et Bruxelles. France Musique, 8h38, c'est l'heure de Classique Info. Classique Info avec Sofia Anastasio. Bonjour Sofia.
Bonjour Gabriel.
Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris, a annoncé hier dans le journal Le Monde qu'il quittera l'institution plus tôt que prévu à la fin de l'année 2020, alors que son contrat s'étendait jusqu'en juillet 2021.
Un départ anticipé dont Stéphane Lissner s'est expliqué le soir même. Il était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5. On l'écoute.
Il y a beaucoup de raisons, mais la raison principale, c'est que la situation de l'Opéra de Paris est une situation assez grave d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue social.
Vous parlez d'urgence.
Alors, je parle d'urgence, oui. Pourquoi ? Parce que nous avons eu, pendant la réforme des retraites au mois de décembre, des grèves très pénalisantes qui ont atteint à peu près une quinzaine de millions d'euros de pertes. Et puis au mois de janvier, les grèves ont encore continué, alors que la RATP, la SNCF, tout le monde avait repris le travail, mais les grèves ont continué en janvier, donc ça a encore aggravé, bien sûr, la situation. Et puis, il y a eu le Covid, qui, alors là, nous a fait fermer à partir du 15 mars, Et on est arrivé à une situation d'environ 45 millions, entre 45 millions et 50 millions de pertes. Et donc tout ça a fait que j'ai considéré que mon successeur devait faire un nouveau plan de relance et se confronter avec l'État pour trouver
des
solutions. Et je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut trouver les solutions. C'est maintenant qu'il faut réfléchir.
Alexandre Neff,
oui. Et je me suis bien sûr entretenu avec lui. Et je lui ai dit, mais maintenant...
Je ne peux pas entamer une relance.
Mais non, c'est lui.
Si c'est pour partir...
Mais non, je pars 6 mois après. Et d'ailleurs, je dirais qu'un directeur partant, il ne va pas avoir la même réflexion qu'un directeur arrivant. Et donc, je trouvais ma responsabilité, c'était de dire, mais non, je dois laisser la nouvelle direction travailler.
Et vous le faites dans quel état d'esprit ?
Je suis peiné parce que, d'abord, c'est très difficile de prendre cette décision, de partir avant la fin d'un mandat. Je sais que, pour moi, en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive dans ce sens où je pars vraiment au moment où, où la situation est très fragilisée. Déjà, l'idée de laisser une maison dans cet état, c'est déjà terriblement pénible, même si je ne crois pas avoir de responsabilité en ce qui concerne la réforme des retraites et le Covid. Mais c'est une réalité. Je pense que pour l'Opéra de Paris, rien ne sera plus comme avant. Et que ce qui vient d'arriver, c'est un moment historique qui nécessite une réflexion et des décisions. Et j'ai même employé le mot drastique, parce que je crois qu'il faudra prendre des décisions drastiques.
Parmi les décisions annoncées également hier, les travaux des deux salles prévues entre juillet et octobre 2021 ont été avancés. Ils débuteront le mois prochain. Au Palais Garnier, la programmation prévue est ainsi annulée jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. L'Opéra Bastille rouvrira ses portes le 24 novembre prochain avec la Traviata mise en scène par Simon Stone. Viendront ensuite le Carmen de Calixto Bieto et le ballet La Bayadère. Par ailleurs, le ministre de la Culture, Franck Riester, a confié au successeur de Stéphane Lissner, Alexandre Neff, la mission de proposer dès l'automne prochain, je cite, « des orientations pour maintenir l'excellence et le rayonnement de la maison ». Il le charge également de revisiter son modèle économique, social et organisationnel pour assurer les conditions d'une exploitation équilibrée.
On continue ce matin, Sophia, avec des festivals maintenus cet été et à la rentrée.
Musique en dialogue au Carmélite se tiendra les samedis et dimanches du 29 août au 27 septembre. Le festival Le Temps d'aimer la danse célébrera ses 30 ans à Biarritz du 11 au 20 septembre. Enfin, le salon Festival international de musique de chambre de Provence est quant à lui maintenu du 31 juillet au 8 août.
Merci beaucoup Sophia Anastasio. Nous retrouvons ce classique info sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. Bonne journée Sophia.
Bonne journée, à lundi.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Un disque événement à 8h42 sur France Musique. La sortie en ce vendredi 12 juin du disque lyrique très attendu, celui du ténor Jonas Kaufmann, à l'honneur dans Othello de Verdi avec l'orchestre de l'Académie Nationale de Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano, un double disque Sony, l'enregistrement complet de l'opéra de Verdi dans lequel le ténor endosse le rôle des rôles des ténors, Othello, ce général mort de l'armée vénitienne. Une interprétation captivante d'une maturité absolue, une dignité aussi magnifique, c'est donc très digne. Un Othello qui apparaît dans sa nudité tragique et qui rend justice au génie de la partition de Verdi. Dans l'air que voici, Othello, se sentant trahi par sa femme Desdémone, avoue pouvoir supporter tous les maux, mais pas de perdre la lumière de l'amour. Jonas Kaufmann sur France Musique.
Scambiar tutti i mali della miseria, della vergogna. Far dei miei paldi trofei trionfali, una macceria, una menzogna. E avrei portato la croce crudel
angosce ed onte con calma fronte. Col sol, qual sorriso, qual raggio che mi fa vivo, che mi fa lieto. Spento col sol, qual sorriso, qual raggio che mi fa vivo.
La voix de Jonas Kaufmann, accompagnée par l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano, dans cet air d'Io, mi pote viscaliar, tutti i mali, Dieu, tu pouvais m'infliger tous les maux, extrait de l'acte 3 d'Othello de Giuseppe Verdi, une sortie de disque donc aujourd'hui, paru chez Sony. 8h47, c'est l'heure de retrouver notre invité ce matin.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Gabriel Oliveira Guyon.
Notre invité, Patrick Canac. Bonjour Patrick Canac.
Bonjour Gabriel.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes le président fondateur du festival Les Musicales du Luberon. Luberon, un partenariat avec France Musique, festival qui commence le 16 juillet et se poursuit jusqu'au 4 août, une 31e édition maintenue. Donc c'est une bonne nouvelle.
Excellente, oui, mais on n'avait pas annulé.
Oui.
On avait annulé les concerts qui ne pouvaient pas être organisés jusqu'au 15 juillet. Mais pour la période après le 15 juillet, on avait heureusement maintenu nos accords avec les artistes.
Alors justement, comment ça s'est fait avec les artistes? Comment votre organisation se fait justement pour avoir pu les prévenir à temps, qu'ils reprennent les répétitions et toute cette organisation estivale?
Alors écoutez, on a fait un pari avec ceux qui, parmi les artistes, ne devaient pas prendre de risques. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a dû annuler un concert avec l'ensemble Arcangelo et Jonathan Cohen, qui venaient de Londres. Et on a estimé avec lui que les risques étaient trop importants et qu'il valait mieux effectivement reporter le concert à l'année prochaine, encore à cause des mesures qui d'ailleurs ont été prises, qui obligent ceux qui se rendent hors du territoire anglais d'être mis en quarantaine. Donc on a préféré annuler. Mais par contre, on a fait le point avec tous les autres artistes, on a effectivement analysé les risques qu'ils pouvaient prendre. Et on a en plus décidé que nous allions adapter le format des concerts aux règles sanitaires et en particulier à la réduction des jauges dans les lieux de concert. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec les artistes qui ont accepté de le faire, et c'est un effort considérable auquel ils ont consenti, de doubler les concerts, de les jouer deux fois le même soir à 18h30 et à 21h30 de manière effectivement à n'accueillir qu'une jauge réduite dans nos lieux de concert.
C'est le cas pour Café Zimmermann par exemple, le 16 juillet, 18h30, 21h30.
Alors, c'est une idée de l'ensemble Zimmermann. Mais Zimmermann, on a effectivement deux concerts, 18h30 le 16 juillet et à 21h30, où on donne le même programme, ce qui nous permet de répartir le public entre ces deux horaires. et ce qui permet effectivement de réduire la jauge à une centaine de personnes dans l'église qui peut en recevoir normalement, l'église de Ménerbe, qui peut en recevoir 300. C'est la même chose avec Pomodoro. Là, ça se passe à Beaugneux.
Eva Zajcik.
Avec Eva Zajcik. Et bien, on donne deux fois le même programme, légèrement réduit, effectivement, à 18h30 et 21h30. Et puis, nous avons également procédé au même dispositif avec Geneviève Laurenceau. Mais là, on le fait à deux jours de successifs pour des raisons d'ensoleillement, puisque c'est un lieu extérieur. À 18h30, il y a trop de soleil, donc on fait ça le 3 août et le 4 août.
En l'espace Jean Giono à Apte.
Voilà, l'espace Jean Giono à Apte. Voilà.
Alors, pendant le confinement, Patrick Canac, vous avez pu faire vivre votre saison en mettant à disposition des conférences. Il y avait quand même une sorte de vraie plateforme d'échange. 12 épisodes, les musicovirus, vous les avez appelés comme ça. Vous sentez que vous avez réussi à garder un contact avec votre public comme ça?
Et écoutez, oui, parce que les musicales, nous avons une activité toute l'année, une activité d'organisation de concerts avec des formats différents. Et puis, tous les mois, nous organisons, ce sont nos membres d'ailleurs, qui animent des conférences qui sont plutôt des conférences d'écoute, où ils présentent un sujet avec une demi-heure de présentation et une heure d'écoute. L'écoute, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Donc, nous nous réunissons dans un très beau lieu, la Maison d'Oramar à Ménerbe, donc une fois par mois. Évidemment, du fait du confinement, ces conférences étaient impossibles à organiser. Et alors, on a eu l'idée de les transformer en conférences écrites, diffusées sur la toile, et avec la possibilité pour les lecteurs d'aller cliquer sur YouTube, écouter tout en lisant, écouter les sélections de musique que nous avons choisies. Et nous avons donné 12 musicovirus. Alors c'est beaucoup de travail pour les conférenciers, puisqu'il a fallu retranscrire les conférences qui étaient des conférences orales. Il a fallu donc les mettre par écrit, retravailler sur les sélections, les choix musicaux. Et ça a eu énormément de succès. Et alors, ce qui nous a beaucoup fait plaisir, c'est que ces conférences ont été entendues par du personnel soignant, en particulier dans la région de Nice, donc vous voyez, pas tout près du Libéran, qui nous ont encouragés à continuer en nous disant, écoutez vos conférences, ça nous change l'esprit, ça nous permet de nous évader. Et on a choisi beaucoup de sujets. Bon, il y a eu un sujet sur Naples, un sujet sur Venise, sur Vivaldi, sur Beethoven, sur le chef d'orchestre. Nous avons pu analyser quelle était l'importance du lectorat. Et on a pu analyser que plus de 1000 personnes prenaient connaissance de ces musicovirus. Voilà. Donc nous étions extrêmement satisfaits parce que nous n'accueillons pas 1000 personnes. À nos
bien
conférences
sûr.
Du samedi.
Alors, pour cette 31e édition du festival cet été, les musicales du Luberon, 2020, pour l'amour du baroque, donc saison amputée mais rédemptrice, vous dites souvent, Patrick Canac, que vous n'êtes pas musicien, mais que seules vos oreilles sont vos instruments. Comment vous avez justement pensé la programmation musicale de cet été, donc les seuls concerts qui vont pouvoir avoir lieu entre le 16 juillet et le 4 août?
Alors, peut-être qu'on avait anticipé, l'ambiance du confinement. Nous avons voulu cette année faire une espèce de retour aux sources, puisque les premières années des musicales, donc il y a plus de 30 ans, 32 ans, étaient consacrées plutôt à la musique baroque. Et pourquoi? Parce que pour ma part, ma formation musicale a commencé par le jazz, et j'ai toujours considéré, je suis allé du jazz à la musique baroque tout simplement parce que ce sont deux formes de musique qui se ressemblent. L'ensemble rythmique pour le jazz, le continuo pour la musique baroque, une musique non écrite qui laisse la place à beaucoup d'improvisation. Et j'ai trouvé, moi, ça a été pour moi, donc la musique baroque, une découverte, il y a 40 ans. Hein. Et donc, on a commencé avec, il y a 40 ans, avec les grands interprètes de la musique baroque, comme Gérard Lenne, par exemple. Mmh. Et peu à peu, mes centres d'intérêt ont évolué. J'ai de la musique baroque, je suis passé à la musique romantique et puis même à la musique contemporaine. Et notre public, nos amis, nos mécènes, etc., me disaient toujours, mais pourquoi tu reviens pas? Pourquoi on fait pas une année baroque? Ça serait bien de revenir un petit peu aux sources.
Et bien voilà.
Et donc ça a été le cas. Et en plus, ce qui caractérise aussi, je dirais, notre festival, c'est que aujourd'hui, on associe la musique à des moments de réflexion, d'amélioration de nos connaissances. C'est la raison pour laquelle on a des conférences. Et nous avons invité, ils viendront, un grand spécialiste du baroque,
Patrick Barbier,
mm-hmm. Patrick Barbier, donc qui vient de publier un ouvrage pour l'amour du baroque. Nous avons également invité un grand spécialiste de la musique sacrée, Gérard Curtian, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le livre des musiques sacrées, qui est absolument un livre de très très grande édition.
Il sera donc en conférence le 16 juillet.
Ils sont
à 20h à Ménerbe.
Exactement. Gérard Curtian le 30 juillet à Beaunieu. Et puis également, nous avons été sollicités par deux personnes vraiment qui font un travail absolument remarquable, Pascal Bernheim et Laurence Lars, qui ont traduit un livre qui s'appelle « Musique et spoliation », qui explique comment aujourd'hui on essaie de retrouver des instruments, et en particulier des instruments de la période baroque, qui ont été volés par les nazis pendant la dernière guerre.
Rendez-vous donc cet été pour des concerts et des conférences. Donc pour ce festival musical du Luberon, nous écoutons là des artistes qui viendront cet été les 3 et 4 août, vous en parliez tout à l'heure, l'ensemble Smoking Joséphine.
Geneviève Lorenzo.
Exactement, au violon avec 4 autres avec elle, Fritz Kreisler.
Quatre femmes formidables, avec 4 musiciennes formidables qui revisitent la musique classique.
Exactement, nous les écoutons dans ce Liebesfreude de Fritz Kreisler. Merci beaucoup Patrick Canac.
Merci beaucoup et merci de votre intérêt pour le musical.
Smoking Joséphine dans l'interprétation de ce Liebesfreude de Fritz Kreisler. Smoking Joséphine en concert les 3 et 4 août prochains au Musical du Luberon, festival en partenariat avec France Musique qui commence le 16 juillet prochain, 8h58. C'est la fin de Musique Matin. Emmanuel Dupuis et Alex Billard étaient à la technique, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guimet avec Max Dozolm, Thaïs Afroidur et Margot Muller à la coordination. Merci beaucoup à tous. Lundi, retour de Jean-Baptiste Urbain pour Musique Matin. Quant à moi, je vous retrouve demain entre 9h et 11h pour France Musique est à vous, l'émission qui vous donne la parole et écoute tous vos coups de cœur musicaux.
À réécouter sur francemusique.fr.